Je vous pose une question. Une fois que les Israélites furent sortis d'Égypte, qu'est-ce qui s'est passé pour la première fois? Que s'est-il passé pour la première fois qu'ils ont observé la fête des tabernacles? Quand ils sont sortis d'Égypte, il y a eu une première fois où les Israélites ont observé la fête des tabernacles. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Plus précisément, qu'est-ce qui s'est passé le premier jour de la première fête des tabernacles que les Israélites ont observé après leur sortie d'Égypte? Selon les calculs qui ont été effectués par M. John Ogwin, il y a un certain nombre d'années, un évangéliste que Dieu a utilisé puissamment dans son Église, c'est exactement ce jour-là que Moïse, pour la deuxième fois, est descendu du mont Sinaï avec les deux tables de loi dans ses mains. Premier jour de la fête des tabernacles. Premier jour de la première fête des tabernacles que les Israélites ont observé après leur sortie d'Égypte. Et là, il s'est passé trois choses majeures, trois choses significatives, trois choses très encourageantes pour nous, qui nous apprennent beaucoup et qui nous montrent un peu la grandeur et la puissance du grand Dieu que nous sommes venus adorer à cette fête des tabernacles. Pour voir quelles sont ces trois choses, allons à Exode. Exode, chapitre 34. Exode, chapitre 34. Et nous allons lire à partir du verset 29. Exode 34, verset 29. Moïse descendit de la montagne du Sinaï avec les deux tables du témoignage dans sa main, en descendant de la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse. Et voici, la peau de son visage rayonnait. Et ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent, et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et ça, c'est un aspect important, on va en reparler. Il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Ça devait être extrêmement frappant de voir ce phénomène. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler à l'Éternel. Bon, alors voici dans ce récit les deux premières choses spéciales qui sont arrivées ce jour-là. Premièrement, le visage de Moïse rayonnait d'une lumière glorieuse. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Moïse avait en main les tables de la loi que Dieu lui avait données, que Dieu avait écrites de son doigt. Maintenant, voyons la troisième chose spéciale, importante, qui ont marqué ce jour-là et la descente de Moïse du mont Sinaï. Exode chapitre 35, juste le verset suivant. On va avoir la troisième chose importante ici dans le message que Moïse avait de la part de Dieu. Exode 35, verset 1. Moïse convoqua toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, « Voici les choses que l'Éternel ordonne de faire. » Allez au verset 4, juste un peu plus loin. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et leur dit, « Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera une offrande à l'Éternel, de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes, et ainsi de suite. Bon, on voit que ceux qui avaient le cœur bien disposé devaient faire un certain nombre de choses. Dieu leur demandait de faire ça. Allez au verset 10, un peu plus loin, même chapitre, verset 10 et 11. Que tous ceux d'entre vous qui ont de l'habileté viennent et exécutent tout ce que l'Éternel a ordonné. Le tabernacle. Alors, le commandement que Moïse a apporté aux Israélites de la part de Dieu et qui constitue la troisième chose dont je vais vous parler, c'est la construction d'une maison pour Dieu à ce moment-là, de son tabernacle ou de son temple, si vous voulez. Le tabernacle, sa tente et sa couverture, verset 11, ses agrafes, ses planches et ainsi de suite. Verset 21. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur. Ça, j'aime cette expression-là. Les gens entraînés par le cœur, qui ont suivi ce que l'Éternel demandait, mais de tout cœur. Tous ceux qui furent entraînés par le cœur et animés de bonne volonté vinrent et apportèrent une offrande à l'Éternel pour l'œuvre de la tente d'assignation, pour tout son service et pour les vêtements sacrés. Donc, la troisième chose très spéciale lors de la descente de Moïse de la montagne, c'était la directive divine de construire un tabernacle. Donc, je récapitule. Trois choses majeures se sont produites à ce moment-là. Premièrement, le visage de Moïse rayonnait de lumière glorieuse. Deuxièmement, Moïse avait les tables de la loi de Dieu dans ses mains. Et troisièmement, il descendait avec l'ordre de Dieu de bâtir un temple. Et il demandait à ceux qui avaient le cœur bien disposé de participer à la construction de ce temple. Bon. Maintenant, on va voir en détail chacune de ces trois choses tout à fait spéciales qui se sont produites. Je vous le rappelle, le premier jour de la fête des tabernacles, lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte et qu'ils ont observé la fête des tabernacles pour la première fois, lorsque Moïse est descendu de la montagne. Premièrement, donc la peau du visage de Moïse rayonnait. Il y avait une lumière éclatante qui émanait de son visage. D'où est-ce que ça venait? Vous le savez, je pense. C'est que Moïse avait été plusieurs jours sur la montagne, en présence de qui? En présence de Dieu lui-même. Alors, il s'était passé un phénomène et Dieu a permis que ça soit ainsi. Et vous allez voir que tout ça a une signification merveilleuse pour nous aujourd'hui. Moïse avait, en quelque sorte, absorbé un peu de la gloire de Dieu. Moïse avait absorbé un peu de la gloire de Dieu. Et ça, là, laissez-moi vous dire une chose. Ça, c'est un tout petit aperçu de l'aspect glorieux que les fidèles serviteurs de Dieu auront au retour de Christ lorsqu'ils seront transformés. C'était également prophétique. Ça annonçait ce que vous et moi, nous allons devenir si nous sommes fidèles jusqu'au bout. Qu'est-ce qui arrivait? C'est que les gens autour voyaient cette lumière, mais ils ne comprenaient pas. Les Israélites ne comprenaient pas vraiment ce qui se passait et tout ce que ça impliquait. Aujourd'hui, vous et moi, ceux qui sont appelés, ceux qui s'appliquent à s'approcher de Dieu, à marcher avec lui, qu'est-ce que la Bible dit d'eux? La Bible dit que c'est le sel de la terre, pas juste ça, mais qu'ils sont la lumière du monde. Ceux que Dieu appelle changent de façon de vivre et entrent dans une autre culture, la culture de Dieu. Et ça doit paraître autour, pas physiquement. Il n'y a pas des rayons qui émanent de votre visage ou de mon visage, mais ça doit paraître spirituellement. Et les gens autour doivent le voir, même s'ils ne comprennent pas le phénomène. Et il voit qu'il y a quelque chose d'inhabituel dans ces gens-là, qu'ils ne voient pas ailleurs. Pourquoi? Parce qu'ils s'approchent de Dieu, parce qu'ils marchent avec Dieu, parce qu'ils sont proches de Dieu. Et plus les appelés s'appliquent à être proches de Dieu, plus ça paraît qu'ils vivent selon d'autres lois et selon une autre culture. C'est formidable lorsqu'on voit la signification de ces choses-là. Les gens autour de nous doivent le voir, même s'ils ne comprennent pas pour l'instant que c'est par la présence du Christ en vous que ces choses-là se produisent, qu'ils voient quelque chose de bon, d'agréable, mais qu'ils ne peuvent pas comprendre ou définir. Allez à 2 Corinthiens, s'il vous plaît. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Et on va voir le contexte ici à partir du verset 3. Paul dit ceci, « Vous êtes manifestement une lettre de Christ. » Et ça s'applique à vous, ça s'applique à moi qui avons été appelés maintenant. « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère. » Et c'est vrai que les ministres de Dieu doivent enseigner les gens mettent ces choses-là en pratique et ils deviennent un reflet du Christ, vous savez. Et ça devient une lettre de Christ écrite dans vos vies, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Bon, allons plus loin. Verset 6 et verset 7. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Voyez-vous, si nous ne faisons qu'administrer la loi, ou si nous n'enseignons seulement que l'observance de la loi, mais qu'il n'y a pas d'autre élément qui joue, que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas en cause, que le repentir n'est pas là, c'est le ministère, c'est pas un ministère de vie, c'est le ministère de la mort, parce qu'on est encore sous nos péchés. Si les ministres ne nous avaient pas expliqué qu'on doit changer, qu'on doit se repentir de nos fautes qui ont causé la mort du Christ, on serait encore dans ces mêmes péchés, nous serions encore sous l'amende du péché, et nous serions, pour ainsi dire, sous le ministère de la mort, parce que on est encore dans le même état qu'on était avant. Il faut plus que simplement la loi. D'ailleurs, écoutez, la loi ne donne pas la vie éternelle. La loi ne donne pas la vie éternelle. La loi est importante, très importante, mais la loi ne donne pas la vie éternelle. Ce que fait la loi de Dieu, c'est qu'elle définit ce qui est bien et ce qui est mal. Elle nous dit ce que nous devons faire, mais elle ne donne pas la vie éternelle. Le but de la loi est d'expliquer ce qu'est le péché. Ça, vous le savez par la Bible aussi. Quand vous allez voir, par exemple, dans Romains 7 et le verset 7, Paul dit bien, « Je n'ai connu le péché que par la loi. » C'est quand on regarde les règlements qu'on sait si on les a transgressés ou pas. Avant qu'on s'intéresse, ou je devrais dire avant que Dieu nous donne de nous intéresser à sa loi, on ne s'en occupait pas. Mais une fois qu'on a regardé les commandements de Dieu, là, on a vu où on manquait. Dans le fond, on les a tous manqués, que ce soit dans la lettre ou dans l'esprit. Mais la loi nous révèle qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal, qu'est-ce qui est selon la culture de Dieu ou non. Paul continue en disant, « Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'avait pas dit « Tu ne convoiteras point ». Voyez-vous, la loi nous dit ce qui est bien et ce qui est mal. Maintenant, pour être capable d'observer la loi, nous avons besoin de la puissance divine. C'est l'autre élément dont nous avons besoin pour être capable d'observer la loi. La puissance divine, l'Esprit de Dieu. Sans ça, on ne peut pas y arriver. C'est par l'Esprit de Dieu qu'on peut arriver à ces choses-là. Le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc d'avoir péché, qui nous donne de comprendre qu'on a transgressé la loi. C'est le Saint-Esprit qui nous rend capables de nous repentir. La Bible dit que c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ça nous oblige pas, mais ça nous pousse à la repentance. Et dans le libre choix qu'on a, là, on prend un chemin ou l'autre. Dieu dit, j'ai mis devant vous la voie de la vie, la voie de la mort, choisissez la vie, et ainsi de suite. Mais le Saint-Esprit, lui, la bonté de Dieu, par le Saint-Esprit, nous rend capables de nous repentir. C'est pour ça qu'il faut le demander chaque jour. Et je vous dirais, à la fête des tabernacles, demandez-le encore plus. Et je suis certain que quand Dieu voit que ses enfants sont en chambre et qu'ils veulent lui plaire, Dieu répond encore davantage. Le Saint-Esprit répand dans nos cœurs l'amour de Dieu. Le Saint-Esprit nous communique la nature de Dieu. Plus on a de son Saint-Esprit, plus on devient comme lui. On est en marche vers devenir totalement spirituel un jour. Et le Saint-Esprit nous donne la vie. C'est une semence de vie éternelle. Mais vous, la vie éternelle ne vient pas de la loi, elle vient du Saint-Esprit de Dieu, la semence de Dieu. Par contre, il nous faut obéir aux lois de Dieu. Ça, c'est l'autre partie. Et le Saint-Esprit, c'est la puissance par laquelle Dieu nous change. Plus on est disposé à changer, plus il va nous changer. Soyez pas inquiets. Parce que ça, il veut nous changer. Et il ne veut pas qu'on souffre en cours de route. Parfois, on souffre parce qu'on attire sur nous-mêmes les problèmes. On attire sur nous-mêmes les difficultés. Mais il veut qu'à travers ça, on apprenne à changer. Et à la fin, si on est fidèle jusqu'au bout, à cause du dépôt de la vie éternelle qu'il a mis en nous, sa puissance, son Saint-Esprit, à ce moment-là, il nous transformera en être totalement spirituel, totalement esprit, fille et fils de Dieu, membre à part entière de la famille royale divine. Mais je reviens à ça, ça élimine pas la loi. Autrement dit, Dieu ne nous sauve pas de la pénalité de nos péchés. Dieu ne nous sauve pas de la pénalité de nos péchés pour que nous continuions à pécher. Mais il veut qu'on arrête. Nos péchés ont causé la mort du Christ. Alors ça, faut le réaliser. Il faut avoir à cœur de changer complètement. Adorer Dieu, remercier le Christ d'avoir donné sa vie pour nous et le supplier de vivre en nous intensément pour lui, le chef de l'armée de l'Éternel, nous donner de vaincre chacune de nos faiblesses. C'est ça croître dans la grâce. C'est ça croître dans la grâce. C'est pour ça que Paul dit dans Romains 6, versets 1 et 2, on peut s'y reporter, Romains chapitre 6, versets 1 et 2, « Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? » Autrement dit, est-ce qu'on pécherait davantage pour que Dieu nous pardonne davantage, étant donné qu'il pardonne? Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est pour ça que Paul mentionne ça ici. Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, bien au contraire, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? C'est clair. Alors, il nous faut fuir nos anciennes voies. Et ça, c'est un combat qu'on va mener jusqu'au retour de Christ, parce qu'on sera rendu parfait seulement le jour où Christ va revenir. C'est pour ça qu'il ne faut pas se décourager, il faut demander l'aide de Dieu pour changer continuellement. Si on revient à nos ancêtres, les Israélites, là, Dieu ne les a pas libérés de l'esclavage en Égypte pour qu'ils retournent ensuite dans l'esclavage de l'Égypte. Il les a libérés pour ne pas qu'ils retournent dans l'esclavage. C'est la même chose en ce qui nous concerne. Et nous, on doit abandonner nos mauvaises voies, qui est l'Égypte spirituelle dans ce sens-là. Alors, je reviens à ça. Moïse a amené la loi écrite sur des tables de pierre. Plus tard, qu'est-ce qui est arrivé? Le Christ est venu. Il a apporté la possibilité du don du Saint-Esprit. Et il nous a ainsi rendus capables d'accomplir la loi et d'avoir la vie éternelle en ayant un dépôt de la vie éternelle de Dieu en nous. C'est ce que le Christ a fait par la suite. Moïse avait amené les lois sur les tables de pierre. Maintenant, le Christ est venu. Il a donné sa vie. Il a rendu possible le fait que nous nous repentions, que nous soyons pardonnés de nos fautes, que nous recevions le Saint-Esprit et que nous soyons capables de voir la loi de Dieu écrite dans nos cœurs et non pas sur les tables de pierre. Même que le Christ est allé plus loin parce qu'il a dit « Je suis venu non pas pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » C'est-à-dire « Je viens vous en montrer la dimension beaucoup plus grande. » Il ne s'agit pas simplement de ne pas commettre l'adultère physiquement, Mais il s'agit de ne pas penser à ces choses-là. Parce que dès qu'on y a pensé, comme le Christ a dit, lorsqu'on garde cette pensée-là, c'est qu'on est en train de le commettre, l'adultère. Alors, le Christ nous a magnifié la loi. Revenons à 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3. Commençons à lire au verset 7, là où nous étions tantôt. Or, le ministère de la mort, le ministère qui se limiterait à révéler seulement les lois de Dieu, sans expliquer le salut après, c'est le ministère qui laisse les gens sous l'amende de la mort, pour ainsi dire. Or, le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère. Voyez-vous? Verset 8. Combien le ministère de l'Esprit maintenant? Alors qu'on peut expliquer le salut, alors que les gens ont accès au trône de miséricorde de Dieu, être baptisés, recevoir le Saint-Esprit et vivre selon ses voies, ça c'est le ministère de l'Esprit. Combien le ministère de l'Esprit sera-t-il plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, parce que quand Moïse est descendu avec les tables de la loi, c'était le ministère de la condamnation. C'était pas encore possible d'être pardonné. Le Christ n'était pas mort encore. Les gens restaient sous la condamnation de leur péché. Alors c'est pour ça qu'il dit, si le ministère de la condamnation a été si glorieux, parce que même Moïse, à ce moment-là, est revenu avec le visage éclatant, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. De beaucoup supérieur en gloire. Et la gloire qui nous attend est beaucoup plus grande que la gloire que Moïse démontrait à ce moment-là. C'est à un autre échelon, c'est à un autre niveau. Ministère de la justice, ministère du Saint-Esprit, par lequel nous devenons participants de la nature divine, ce qui n'était pas le cas à l'époque, sous l'ancienne alliance. Allez au verset 11 du même chapitre. Verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, et c'est vrai, Moïse, son visage a émané de la lumière pendant un certain temps, puis après ça l'a cessé, c'était temporaire. Alors qu'est-ce qu'il dit ici? En effet, si ce qui était passager a été glorieux, parce que c'était frappant de voir ça, ce qui est permanent est encore beaucoup plus glorieux. Ce qui est permanent n'est pas encore là totalement, mais c'est en construction, parce que la famille de Dieu est en construction. Verset 12. Écoutez, ce ministère plus glorieux, c'est ce qui nous attend au retour de Christ, quand vous et moi, si nous sommes fidèles, nous allons être transformés. Et c'est ce que nous serons lors du banquet des noces de l'agneau. Ce sera les êtres glorieux nés dans la famille de Dieu qui vont former l'ensemble de la famille divine. Versets 12 et 13. Ayant donc cette espérance, et quelle espérance? Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté. Et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Qu'est-ce que ça représentait spirituellement? Le fait que Moïse mettait un voile comme ça. Qu'est-ce qu'il y avait comme signification dans ce geste-là? Regardez bien, et c'est profond. C'est que le voile cachait les choses aux Israélites et non pas à Moïse. Moïse savait les choses de Dieu avec une profondeur que les Israélites n'avaient pas. Eux voyaient briller la lumière, mais lui mettait un voile pour ne pas qu'ils voient la fin de ces choses-là, comme on voit ici. Mais ce que ça montrait une chose bien précise. Ça montrait l'aveuglement des êtres humains lorsqu'ils sont séparés de Dieu par un voile qui les empêche de voir et de comprendre l'entièreté de la vérité de Dieu. Verset 14, là où on est rendu. Mais ils sont devenus durs d'entendement. On parle des Israélites ici, on pourrait parler de l'humanité dans son ensemble. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile, voyez-vous, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas parce que c'est en Jésus-Christ qu'il peut disparaître. C'est seulement une fois qu'on connaît le vrai Dieu, qu'on a été appelé, qu'on s'est repenti, qu'on a été pardonné, lavé de nos fautes dans le baptême, qu'on a reçu son Saint-Esprit, que le voile se lève totalement et qu'on peut être en contact, en relation étroite avec Dieu et que le voile disparaît vraiment. Alors, il dit, jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture des textes. C'était vrai pour les Juifs à ce moment-là et c'est aussi vrai pour l'ensemble de l'humanité aujourd'hui. Le voile est encore là. Ils ne peuvent pas voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur même de tous les serviteurs et les servantes que Dieu appelle maintenant. Ils trouvent bon la présence de ces gens-là qui sont polis, qui sont aimables, qui rendent service, qui sourient. Ils les trouvent différents, mais ils ne comprennent pas ce qu'il y a au-delà de ce voile, pour ainsi dire. Verset 15. Continuons au verset 15 maintenant. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. C'est juste à ce moment-là que le voile peut être ôté. Ni vous, ni moi ne pouvons lever le voile pour une autre personne. On ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'on ne doit pas essayer de changer les autres ou de convertir les autres. On a assez de misère à essayer de changer nous-mêmes, de nous changer nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui appelle. Et sachez que Dieu sait quel est le meilleur moment pour appeler quelqu'un, que ce soit un conjoint, un parent, un enfant. Si Dieu ne l'appelle pas maintenant, c'est parce que c'est mieux ainsi. Dieu sait quand c'est le meilleur moment. Et Dieu va l'appeler, cette personne-là, au meilleur moment pour qu'elle réussisse à se rendre au royaume, pour pas qu'elle ne manque son coup. C'est ça, Dieu sait. Alors, je reviens à mon verset ici. Donc, jusqu'à ce jour, verset 15, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et oui, la vraie liberté, c'est en Jésus-Christ. C'est quand on peut vivre selon les lois qui mènent au bonheur. Nous tous, dont le visage découvert, regardez bien, nous tous, dont le visage découvert, on n'a pas de voile sur notre visage est découvert, mais on reflète la gloire du Seigneur. Comment? Par notre attitude, par notre façon de faire, par notre façon de parler, par notre façon d'agir, par notre façon de réagir. Nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous savez, c'est fantastique le phénomène qui se passe en chacun de vous. Quand on lit ces passages-là, ça nous montre que le Dieu Tout-Puissant agit en vous. Il est en train de vous transformer vers une gloire indescriptible. Et on est encore à un niveau élémentaire, pour ainsi dire. On n'a encore rien vu. C'est comme des enfants qui jouent dans un petit carré de sable. Ils voient les choses à leur niveau. On est encore dans notre petit carré de sable. On est encore formé de matière. Mais heureusement, on a l'Esprit de Dieu avec notre esprit humain pour découvrir la splendeur de son plan. Et on est en voyage vers une destination qu'on ne peut même pas imaginer. On ne peut même pas imaginer complètement. Le véritable chrétien, là, il est transformé intérieurement, chaque jour. Et la lumière qui émane de lui à ce moment-là, que les autres voient et qu'il apprécie, c'est sa nouvelle façon de vivre, qui développe graduellement. Et quand il manque son coup, il demande à Dieu de lui pardonner et il demande à Dieu davantage de son esprit pour continuer. Et le vrai repentir, c'est de travailler à ne plus répéter les fautes qu'on faisait. C'est ça le vrai repentir. Sans ça, c'est un jeu. Si je pêche, je demande pardon à Dieu, mais que je ne mets pas les efforts pour changer ça et que je garde ce péché-là, je m'approche pas de Dieu à ce moment-là. Ce n'est pas ça. Allez à Ésaïe, chapitre 25, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 25. Le chrétien, dans son cheminement, avec l'aide de Dieu, devient de plus en plus comme le plus vieux de la famille, comme l'aîné, comme le premier-né de la création spirituelle. Et nous, nous sommes ici à la fête pour célébrer ce jour tout proche, où l'aveuglement des nations va disparaître, où tous les êtres humains à ce moment-là vont voir briller la splendeur de l'Évangile, de la gloire du Christ. Là, les gens vont comprendre. Ils vont être ébahis. Ils seront joyeux, contents comme nous lorsqu'on a découvert la perle précieuse, hein, la perle de grand prix, quand Dieu nous a donné de comprendre qu'il existe, qu'il a un plan merveilleux pour chacun des êtres humains. Ésaïe 25 et le verset 6 et 7. Regardez ce que Dieu a en réserve pour le reste de l'humanité. L'Éternel des armées prépare à tous les peuples sur cette montagne un festin de mets succulents, un festin de vin vieux, des mets succulents pleins de moelle, des vins vieux clarifiés. Et sur cette montagne, regardez ce qui va se passer à ce moment-là, il anéantit quoi? Le voile qui était sur tous les peuples et qui empêchait la vaste majorité de l'humanité de comprendre qui est Dieu, de comprendre ses lois et d'être capable de lui obéir. Dieu va lever finalement ce voile-là, la couverture qui couvre toutes les nations. Allez à Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Après le retour de Christ, ce voile-là va être levé et là, Dieu va appeler tous les êtres humains qui seront encore vivants à ce moment-là. Et on peut voir la réaction des êtres humains, on verra plus tard. Mais vous savez, il y a trois des disciples du Christ qui ont vu dans le Christ, lors d'une vision, un peu de l'aspect glorieux qu'auront les enfants de Dieu au moment de leur résurrection. Quand le Christ a été transfiguré devant eux, c'était une vision là. C'était pas une réalité. La Bible dit bien que c'était une vision. Dieu leur a donné cette vision-là. C'est pour ça que je vous dis qu'ils ont vu un peu de l'aspect glorieux que les enfants de Dieu auront lors de la résurrection. Matthieu 16 et le verset 27 et 28. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Alors, il parlait à ses disciples, il en a amené trois avec lui, il dit, il y en a quelques-uns d'entre vous, là, avant de mourir, qui allaient voir le Christ venir dans son règne, mais dans une vision. Il leur a donné une bénédiction extraordinaire. Verset 1 du chapitre 17, juste après, 6 jours après que le Christ a eu dit ça, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Et il fut transfiguré devant eux. Et on voit au verset 9 qu'il s'agissait d'une vision. Il leur dit bien, parlez pas de cette vision tant que telle chose ne sera pas arrivée. C'était une vision, là. Alors, je continue ma lecture ici. Il fut transfiguré devant eux, verset 2. Son visage resplendit comme le soleil. Vous vous rappelez comment Moïse était lorsqu'il a descendu de la montagne, qui avait été longtemps, plusieurs jours, avec Dieu lui-même en face, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. C'est une vision, parce que Moïse et Élie, bien sûr, étaient encore morts, ils seront ramenés à la vie juste au retour de Jésus-Christ aussi. C'était une vision. Alors, et Moïse et Élie leur apparurent et s'entretinrent avec lui. Et regardez le verset 4. Notre ami Pierre, qui est impétueux, qui est toujours hâte que ça marche, qui est toujours prêt à foncer dans le tas, Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Et écoute là, si tu le veux, je vais dresser 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » On a réglé la question. C'est tellement bon d'être ici, on s'installe, on en profite. Remarquez bien ce qu'il a dit. Il a dit, « Si tu veux, je vais bâtir 3 tentes. Je vais bâtir trois tabernacles. OK? Et c'est pas impossible. J'affirme pas, mais ce n'est pas impossible que ce soit arrivé au moment de la fête des tabernacles. Qu'il y a un lien entre ces choses-là. J'ai pas creusé davantage, mais c'est pas impossible que ce soit au temps de la fête des tabernacles que ces choses-là se soient produites. Parce qu'écoutez, on est appelé à quoi? Allez à 1 Pierre 5. Le Christ venait de leur montrer dans une vision sa gloire. Et ça leur donnait un avant-goût de ce que eux allaient devenir dans la résurrection. Et ça s'applique à nous aussi. 1 Pierre chapitre 5. 1 Pierre chapitre 5. Dieu nous réserve un avenir glorieux. 1 Pierre chapitre 5 et le verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous, moi ancien comme eux, témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire. Regardez bien là, participant de la gloire qui doit être manifestée. Pierre réalisait qu'il participait déjà à cette gloire-là parce que le Christ était là en lui, participant de la gloire manifestée. Regardez maintenant au verset 10, un peu plus loin, même chapitre. Il continue en disant ceci. Le Dieu de toute grâce, et oui, toute chose nous vient de Dieu. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à quoi il nous a appelé? À sa gloire éternelle, pas passagère, là, éternelle. Après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Il va nous rendre parfaits le jour où il va revenir. D'ici ce temps-là, vous et moi, on aura encore des combats à mener chaque jour. Il ne faudra pas se décourager. Demandez l'aide de Dieu, mais continuez les combats. Et si on maintient la persévérance jusqu'au retour de Christ, lui va nous rendre parfaits et inébranlables le jour où il va nous donner une gloire éternelle. C'est ça. Co-héritier aussi de Christ, en parlant de la gloire éternelle également, non seulement de l'univers entier, mais de la gloire éternelle. C'est pour ça qu'il est écrit dans Hébreux 2, verset 10, « Dieu veut conduire plusieurs fils à la gloire. » Dieu veut conduire plusieurs fils à la gloire. Philippiens 3. C'est vraiment fascinant quand on regarde les choses sous cet angle. Philippiens, chapitre 3, versets 20 et 21. Mais nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes citoyens des cieux. Notre citoyenneté, elle est là. Nous ne sommes plus des citoyens canadiens ou des citoyens américains ou des citoyens français. Bien sûr, techniquement, sur le plan physique, nous le sommes. Mais nous sommes devenus des citoyens des cieux, membres de la famille de Dieu en devenir. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi, comme sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Et regardez bien verset 21. « Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable à quoi? Au corps de sa gloire. Au corps de sa gloire. » Par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Voyez-vous, on revient encore à cette question de gloire. C'est ce que Dieu a à l'esprit. Lui voit le produit fini que ses enfants qui auront été fidèles et qu'il aura transformé en être spirituel vont avoir une gloire éternelle. C'est fantastique. C'est son projet depuis le début. Et il va l'accomplir. La seule personne qui peut vous empêcher d'atteindre ce but-là, elle est assise sur le fauteuil où vous êtes. C'est vous. Et c'est moi. La seule personne qui peut nous empêcher d'atteindre le but que Dieu nous a montré, c'est nous-mêmes si on se détourne de lui. Ou si on néglige un si grand salut. Vous pourrez aller voir, c'est fantastique, vous irez voir dans 1 Jean 3, verset 2. 1 Jean 3, verset 2, je vais vous le dire en passant, parce que c'est un passage qui me réjouit tellement chaque fois que je le lis, parce que ça nous donne une image de ce qui nous attend de ce que Dieu a en tête pour chacun de ses enfants. 1 Jean 3 et le verset 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Mais oui, nous sommes engendrés par son Saint-Esprit. Nous avons en nous la semence de la vie éternelle, un peu de la nature de Dieu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons, par contre, on n'est pas encore rendu là, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, lorsque le Christ reviendra, nous serons semblables à lui, puisque nous le verrons tel qu'il est. Et pourquoi est-ce que vous et moi, on sera capable à ce moment-là de voir le Christ dans sa pleine gloire? Parce que nous serons aussi glorieux. Nous serons rendus de même nature que lui. Nous serons sur le même niveau ou le même plan d'existence que le Christ. On ne peut pas actuellement le voir dans sa gloire. Mais lorsqu'on sera transformé, on pourra le voir dans sa gloire. On va être ses petits frères, ses petites sœurs, dans la même famille. On pourra le voir dans son état où il sera. Parce que nous, notre état d'être physique, humain, boiteux, rhumatisme, la toux, tout ce que vous voulez, ça sera disparu. On sera devenus des êtres spirituels glorieux, jamais fatigués, jamais limités, toujours en harmonie avec notre Père, avec le Christ, avec les autres, parfaitement. C'est notre but. C'est notre but. Maintenant, revenons à Moïse. J'étais parti un peu plus loin. Revenons à Moïse et ce qui lui est arrivé en ce premier jour de la fête des tabernacles que les Israélites ont observé. Parce qu'il y a un lien direct entre ça et vous aujourd'hui. Il y a un lien direct entre les deux. La lumière qui émanait de son visage représentait l'aspect glorieux des enfants de Dieu au retour du Christ. La lumière qui émanait du visage de Moïse à ce moment-là, c'était un petit avant-goût de ce qui va émaner des enfants de Dieu lorsqu'ils seront nés de nouveau dans la famille de Dieu. Bon, ça, c'était le premier point. J'arrive à mon deuxième point. On a vu le visage de Moïse qui éclairait. Ça a une signification fantastique. Maintenant, on sait que, et c'est mon deuxième point, Moïse avait dans ses mains les deux tables de la loi. Allez à Deutéronome. Le livre de Deutéronome, chapitre 5. Deutéronome, chapitre 5. On va lire le verset 1 et 2. Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous ai fait entendre aujourd'hui, apprenez-les et mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. » Horeb, c'est le mont Sinaï. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Et là, après ça, vous pourrez le lire vous-même, Moïse rappelle les 10 commandements. C'est d'ailleurs le sens du mot Deutéronome, c'est un rappel de la loi. Allons au verset 29 du même chapitre 5 de Deutéronome, verset 29. Dieu dit ceci. S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et observer tous mes commandements. C'est ça que Dieu désire pour nous autres. Comme nous, on désire que nos enfants obéissent pour qu'ils soient heureux. C'est pas pour qu'ils soient malheureux, c'est pour qu'ils soient heureux. S'ils avaient toujours ce même cœur pour me craindre et pour observer tous mes commandements. Afin que quoi qu'ils soient heureux, à jamais, eux et leurs enfants. Heureux à jamais, eux et leurs enfants. Deutéronome 6, juste un peu plus loin, versets 5 et 6. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Dieu insiste beaucoup, régulièrement, sur le fait que ça doit venir du cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Ça, c'est le but de Dieu, que ces lois, ce ne soit pas juste une technique extérieure à nous, mais qu'on les ait assimilées, qu'on les ait fait nôtres, que ça devienne nous, que ça devienne notre façon de vivre, de penser, de respirer, qu'on devienne, pour ainsi dire, les lois de Dieu, qu'on devienne les lois de Dieu. Deutéronome 10, un peu plus loin, versets 12 et 13. 10, versets 12 et 13. « Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. » Encore la même chose. Deutéronome 11, versets 13 et 14. On continue dans le même sens. « Si vous obéissez à mes commandements que je vous prescris aujourd'hui, si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, et si vous le servez de tout votre cœur et de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie, et ainsi de suite. » Et là, il donne toutes les bénédictions qui doivent en suivre, qui devaient en suivre et qui doivent en suivre aujourd'hui. Verset 18 et 19. « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. » Ça doit donc avoir un rapport avec ce qu'on fait, notre façon d'agir, notre façon de travailler, notre façon de nous amuser. Et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et ainsi de suite. Verset 26, un peu plus loin. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour, et verset 28, la malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement d'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller auprès d'autres dieux que vous ne connaissez point. Et il y a un principe qu'il faut se rappeler ici, c'est que on a toujours le choix. On a toujours le choix. Jusqu'à la journée du retour de Christ. Ça, faut en être conscient puis rester sur le bon côté, rester proche de Dieu le plus possible. De faire attention aux influences qu'il y a autour, faire attention aux découragements. Lorsqu'on est porté, ça nous arrive d'avoir des creux de vague. Tout de suite, téléphoner en haut pour demander l'aide, demander à Dieu de changer nos idées ou nos émotions ou nos sentiments. Et Dieu répond. Dieu est un bon papa qui sait nos besoins. Et quand on le supplie dans des circonstances difficiles, il répond. Mais il veut qu'on lui fasse confiance dans les grandes choses et dans les petites choses aussi. Et plus on apprend à lui faire confiance dans les petites choses, plus on est capable ensuite de lui demander dans les grandes choses. Et plus on l'a vu agir, plus on sait qu'il nous répond. Et ça, c'est encourageant. Vous savez, dans le merveilleux monde de demain, ce sera différent de ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Les gens vont vouloir vivre selon les lois de Dieu. Et ils vont se voir offrir le Saint-Esprit pour être à leur tour heureux aussi, pour avoir les balises des lois de Dieu pour vivre en paix et vivre joyeusement. Ils vont le désirer, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Dieu va disposer leur cœur. Ils vont observer les lois divines dans la lettre et dans l'esprit, dans les deux dimensions. Parce que c'est pas suffisant d'observer la lettre de la loi. C'est pas suffisant d'observer la lettre de la loi, même à l'excès. Vous vous rappelez comment les Juifs en ajoutaient puis en ajoutaient aux lois de Dieu pour être meilleurs selon eux? Le Christ leur a reproché d'être des hypocrites. Il dit, votre cœur n'est pas avec moi. Vous faites un paquet de lois et vous ne suivez pas vraiment mes lois de cœur. C'est pas suffisant d'observer les lettres de la loi, la lettre de la loi, même à l'excès, comme les pharisiens le faisaient. Ils avaient une forme extérieure d'obéissance. Il y avait une forme extérieure, toute une série de rituels comme ça. Mais ils n'avaient pas le cœur circoncis. Le cœur n'était pas changé. C'est là que ça se joue. C'est là que ça s'est joué pour vous et pour moi, et que ça doit se continuer jusqu'au retour de Christ. Et c'est dans le cœur des êtres humains que ça va se jouer une fois que le Christ va être revenu. Les pharisiens, à ce moment-là, étaient encore sous le ministère de la mort. Ils connaissaient les lois, mais ils étaient encore sous l'amende du péché. Ils n'avaient pas accès au trône de Dieu et à son Saint-Esprit. Dans le monde à venir, le Tout-Puissant va lever le voile, on l'a vu, qui empêche les nations de comprendre. Ça va être levé, ce voile-là. Il va donner son Saint-Esprit à ceux qui voudront lui obéir. Les gens auront encore le choix. Je pense pas qu'il y en ait de grand nombre qui rejettent le Christ à ce moment-là. Satan ne sera plus là, ça sera plus facile que pour nous. Mais le choix reste toujours possible. Dieu ne veut pas avoir des robots dans son royaume. Dieu donne la liberté de choix jusqu'au bout. Mais lorsqu'on choisit et qu'on le supplie de nous aider, il nous donne de lui obéir, puis il va nous rendre capable d'aller jusqu'au bout. Il va donner son Saint-Esprit à ceux qui vont vouloir lui obéir, et à ce moment-là, il va écrire ses lois dans leur cœur, non pas sur la pierre. Et il y a de grandes, grandes, grandes bénédictions qui vont en découler. Ésaïe, chapitre 2. Ésaïe, chapitre 2, il y aura des bénédictions merveilleuses. Ésaïe, chapitre 2, versets 2 à 4. Il arrivera, dans la suite des temps, on parle du moment du retour de Christ et après, que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur le sommet des montagnes, qu'elle s'élèvera par-dessus les collines, elle sera au-dessus de tous les gouvernements, et que toutes les nations y afflueront, donc les nations vont se tourner vers le gouvernement de Dieu. Des peuples s'y rendront en foule et diront, « Venez, montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. » Voyez-vous, ils vont vouloir le faire. Et laissez-moi vous dire, comme Dr. Meredith explique de plus en plus clairement, ici on parle des survivants de la Troisième Guerre mondiale, des survivants de la grande détresse qui s'en vient. Ceux qui auront connu les camps de concentration, qui vont revenir en pleurant, handicapés de toutes sortes de façons, vont vouloir tellement rejeter les voies qu'ils ont suivies jusqu'alors qu'ils vont dire « Montrez-nous comment être heureux. On ne le savait pas. On a gaspillé nos vies. » Et ils vont vouloir apprendre les voies de Dieu. Et on leur enseignera avec bonheur. Ésaïe 11, un peu plus loin. Ésaïe 11. Dieu va permettre la grande détresse, non pas parce qu'il déteste les êtres humains, mais parce qu'il les aime. Et parce qu'il sait très bien qu'il faut absolument qu'il passe par ça pour être capable de plier les chines et de dire, Dieu, nous, on peut pas vivre heureux. Montre-nous la seule voie par laquelle on peut être heureux. Ésaïe 11 et le verset 9. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Après que le Christ sera revenu, qu'on aura enseigné les lois, graduellement les choses vont se calmer. Le roi de justice sera là. Il faut que la justice soit d'abord établie sur la terre. Après viendra la paix. Car toute la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Jérémie 31. Jérémie, chapitre 31. Et nous allons lire à partir du verset 31. Ici, Dieu annonce la nouvelle alliance. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel. Jérémie 31, 31. Où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une nouvelle alliance. Non comme celle que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Il n'y aura pas personne qui va descendre d'une montagne avec les lois écrites sur les tables de pierre. Dieu dit, je vais mettre ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Et les gens qui formeront le peuple de Dieu seront heureux, contents d'en faire partie, seront puissamment reconnaissants à Dieu de les avoir amenés, de les avoir pardonnés. Et vous savez une chose? C'est le rôle que le Christ a joué dans l'histoire qui aura rendu tout ça possible. Le Christ est le pivot du plan de Dieu. Dieu a tout créé par lui, et Dieu a tout créé pour lui. Alors Moïse a apporté la loi écrite sur des tables de pierre. Mais regardez bien ceci. Je répète, c'est important. Moïse a apporté la loi écrite sur des tables de pierre. Le Christ a apporté, par son sacrifice, le pardon des péchés, l'accès au Saint-Esprit et la compréhension de la vérité. Il y a eu une autre étape de fait. Regardez Jean 1, verset 17. Un tout petit verset qui en dit tellement. Jean 1, le rôle du Christ, un rôle pivot. Jean 1 et le verset 17. Et ici, on met en parallèle ce que Moïse a apporté et ce que le Christ a apporté. Je vous rappelle, Moïse a apporté les tables de la loi écrites du doigt de Dieu sur de la pierre, mais le Christ est venu pour la nouvelle alliance où Dieu met dans nos cœurs, écrit dans nos cœurs, les lois, parce qu'on veut en vivre. Et regardez verset 17. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par qui? Par Jésus-Christ. Voyez-vous? Alors, le fait qu'on peut être pardonné, c'est à cause du sacrifice du Christ. Et le Christ nous a donné la vérité dans toute sa splendeur et nous a révélé la magnitude de la loi de Dieu. Non seulement la lettre, mais l'esprit de la loi. Le Christ a un rôle fantastique. On doit tout au Père, mais on doit tout au Christ également. Si on persévère dans la fidélité, on aura le bonheur nous-mêmes d'apporter la loi aux gens. On aura le bonheur d'apporter la loi aux gens, un peu comme Moïse a fait dans un certain sens. Maintenant, j'arrive à ma troisième chose qui a marqué la première fête des tabernacles, premier jour de la fête des tabernacles que les Israélites ont vécu après leur sortie d'Égypte. La troisième chose qui a marqué ce premier jour de la fête des tabernacles, c'est que Dieu leur a donné l'ordre de construire un tabernacle, ce qu'on appelle la tente d'assignation. Dieu leur a donné ordre de construire le tabernacle. Exode 25. Ça, c'est fascinant quand on regarde ça aussi. Exode chapitre 25. Verset 8. Ils me feront un sanctuaire. C'est Dieu qui parlait à ce moment-là. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Voilà. Et on sait après ça que le Christ descendait dans la tente d'assignation. Il rencontrait Moïse et ainsi de suite. C'était l'endroit où il descendait par la suite. Alors, ce temple-là ou cette tente d'assignation, Dieu avait donné l'ordre de la construire selon des directives très précises. Et c'est ce que les gens ont fait. Exode 29. Exode chapitre 29. On va lire versets 45 et 46. Ça fait référence à la même chose. Dieu dit, je vais habiter au milieu de vous. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je serai leur Dieu. Verset 46. Ils connaîtront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les a fait sortir du pays d'Égypte pour habiter au milieu d'eux. Je suis l'Éternel, leur Dieu. Bon. Alors, on sait que le Dieu de l'Ancien Testament, c'était le Christ. Alors, il a fait bâtir cette tente d'assignation et il dit, je vais descendre et je vais être au milieu de mon peuple à ce moment-là. OK? On va plus loin maintenant, dans l'histoire. Plus tard, par après, le Christ a accompli cette présence d'une autre façon et à un autre niveau. Il a pris une forme humaine. Il a pris une forme humaine et il est venu habiter dans la chair en tant qu'être humain. Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. L'apôtre Jean était bien placé pour parler, parce qu'il avait assisté, lui, à la transfiguration. Alors, c'est pour ça qu'il dit, on a vu sa gloire. Il avait vu la transfiguration du Christ et ça lui donnait une petite idée de ce que nous allons être dans le monde à venir une fois lorsque nous serons transformés. Alors, le Christ est venu dans la chair humaine, il est venu habiter dans la chair. Pourquoi? Pour donner sa vie selon le plan de Dieu, pour payer l'amende de nos péchés. pour annoncer l'Évangile, pour faire connaître le Père. Et là, j'arrive à l'autre point important pour lequel il est venu, pour fonder son Église, son tabernacle. Vous rappelez-vous? Le troisième élément de la première fête des tabernacles des Israélites, Dieu leur avait dit, vous allez construire un temple et je vais être au milieu de vous dans ce temple-là. Là, le Christ vient dans la chair humaine et il fonde l'Église, son temple. On appelle l'Église son temple, c'est vous et moi, ceux qui forment l'Église. Et le Christ habite en nous et il habite au milieu de nous. Mais c'est à un autre niveau que dans l'attente d'assignation physique. Voyez-vous, nous sommes déjà rendus dans une autre dimension, le temple spirituel auquel le Christ reviendra bientôt. C'est bien écrit que le Christ revient dans son temple. Vous pourrez aller voir dans Malachie, chapitre 3, verset 1. Malachie, chapitre 3, verset 1. C'est bien écrit, en parlant du Christ, « Soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. » Il va venir à nous. Le Christ va entrer dans son temple. Alors, voyez-vous, en accomplissant la mission d'Église et en nous revêtant des œuvres de la justice, on se prépare en tant que pierre vivante dans l'Église de Dieu, dans son temple. C'est pour ça qu'il parle de son temple comme étant des pierres, et les pierres qui forment ce temple-là, ce sont des pierres vivantes. C'est vous, c'est moi. On est des sacrifices vivants. On veut l'être. On veut marcher selon les voies de Dieu. 1 Pierre 2. 1 Pierre chapitre 2. Il y a un verset qui décrit cette réalité-là de façon merveilleuse. 1 Pierre chapitre 2 et le verset 5. Vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et nous formons ce saint temple auquel le Christ va très bientôt revenir. On prépare également la voie devant le retour de Christ et l'établissement de ce merveilleux monde nouveau, un monde de justice, un monde de paix, un monde de bonheur pour toute l'humanité. Nous, on goûte un petit peu un avant-goût maintenant à la fête des tabernacles en tant que famille de Dieu. Les choses qui vont venir, mais pour toute l'humanité. Dans le fond, on n'est pas là pour nous-mêmes, si on y pense comme il faut. On est là pour préparer la voie devant le retour de Christ et on est là pour les autres que Dieu va appeler plus tard, soit d'ici le retour de Christ ou soit après le retour de Christ. Nous sommes là pour préparer ça. En même temps, c'est sûr, Dieu assure notre salut si nous sommes fidèles dans ça. Ésaïe 32, Ésaïe chapitre 32, verset 1. Ésaïe 32 et le verset 1. Alors, le roi régnera selon la justice, et ça c'est le Christ, et les princes gouverneront avec droiture. C'est vous, les princes et les princesses qui seront sous le Christ. Et qui vont gouverner avec droiture parce que vous êtes en train d'apprendre à vivre selon la droiture de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Verset 15, même chapitre 32, Ésaïe, verset 15. Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Les choses qui viennent. Verset 17. L'œuvre de justice sera la paix. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut d'abord que la justice soit établie sur la terre pour qu'il y ait la paix. Il ne peut pas y avoir de paix s'il n'y a pas d'abord une justice. La justice va venir seulement par le Christ, mais une fois que la justice sera établie, la paix va en découler. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour tous. Et ce sera une grande étape du plan de Dieu qui s'accomplira à ce moment-là. Résultat, Ésaïe 35. Ésaïe 35, verset 1. Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de joie. avec chant d'allégresse et cri de triomphe. Et vous lisez tout le chapitre et on voit ce que Dieu va faire. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles. Ça va être vrai physiquement, mais ça va être vrai spirituellement aussi. Parce que le voile va être levé. Les aveugles qui ne voient pas spirituellement vont voir spirituellement à ce moment-là. Et bien sûr, ceux qui sont aveugles physiquement seront guéris. Tout ça a une double dimension. Alors le boiteux sautera comme un cerf, la langue du muet éclatera de joie, car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Ésaïe 66. Ésaïe chapitre 66, versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Autrement dit, là, c'est pas un temple physique, là. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses. Ma main les a faites et toutes ont reçu existence de moi, dit l'Éternel. C'est moi qui ai tout fait. Voici sur qui je porterai les regards. Il est en train de dire ici, voici sur quel temple je porterai mon regard. Sur le temple spirituel, sur ceux qui se repentent, sur ceux qui continuent à se préparer pour servir dans le monde à venir. Voici sur qui je porterai les regards. Sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Celui qui souffre et qui a l'esprit abattu, c'est celui qui regrette d'avoir transgressé les lois de Dieu et qui est en train de se purifier. Sur celui, il le dit après, sur celui qui craint sa parole, sur celui qui craint ma parole, qui veut respecter ce que j'ai demandé. Actuellement, ça s'adresse à vous et à moi. Mais à partir du retour de Christ, ça va s'adresser à l'ensemble de l'humanité. Actuellement, ça s'adresse aux pierres vivantes qui forment le temple spirituel du Christ, vous et moi. Ça, je vous dis qu'il y a une dimension merveilleuse dans ce que Dieu fait. Et nous, on a l'immense bonheur d'être à la fête des tabernacles pour apprendre davantage à respecter Dieu, à lui faire plaisir, à s'approcher de lui. On a la grande bénédiction d'être appelé maintenant. C'est toute une bénédiction. C'est pas parce qu'on était plus intelligent que les autres. J'en parlais à Dieu ce matin dans ma prière. C'est pas parce qu'on est plus intelligent que les autres, ou plus brillant, ou plus méritant. Quoi que vous voulez. Ou non, au contraire. Parce que Dieu a eu d'abord miséricorde envers nous. Et dans mon cas, il fallait qu'il y ait beaucoup de miséricorde. Et peut-être dans le cas de certains d'entre vous. Alors, Dieu nous a aimés en premier et il nous a aimés de si loin. Ça nous montre la grandeur de la bénédiction d'être ici. Sans ça, on ne serait pas ici. Certains d'entre nous, devrais-je dire, ne seraient peut-être même plus vivants si Dieu ne nous avait pas appelés à cette époque. Parce qu'il a mis notre nom sur sa liste de ceux qu'il veut comme étant les pierres vivantes dans son temple avec le but extraordinaire qu'il a en réserve pour nous. On a une grande bénédiction, mais en même temps, on a une grande responsabilité, celle de faire notre part pour être de plus en plus proche de Dieu, pour être prêt aussi. Il faut être proche de Dieu, avoir la force de Dieu. Comme Moïse était imprégné de la lumière de Dieu, on doit, nous, être imprégné de la force de Dieu si on lui parle tous les jours, si on se nourrit de sa parole, si on jeûne régulièrement. Et si nous faisons ça à ce moment-là, Dieu écrit plus profondément sa loi dans nos cœurs. Et on devient sa loi. Et on sera capable de passer à travers les temps extrêmement difficiles qui sont tout juste devant nous. Faudra être prêt à affronter ces temps-là. Faudra être prêt d'avance. C'est pas quand une catastrophe arrive qu'on doit se préparer. Vrai ou pas vrai? En cas de feu, est-ce qu'on attend qu'il y ait un feu pour avoir dans la maison des extincteurs, pour avoir ce qu'il faut et ainsi de suite, ou avoir quelqu'un à qui contacter si on a ce genre de problème? Ces choses-là sont planifiées d'avance. Spirituellement, nous devons être prêts à affronter les années et les mois qui viennent pour être capable d'avoir la force. Et pour avoir cette force-là, faut être tout proche de la source, de la force totale, la force de Dieu. Et quand on le fait, Dieu écrit ses lois dans nos cœurs et il nous donne sa force. Nous formons le temple de Dieu en développement. auquel le Christ revient bientôt. Et en terminant, laissez-moi vous dire une chose. Au cours de cette fête, il y a de grandes bénédictions qui vous attendent personnellement. Et je sais très bien que Dieu a déjà commencé à répandre d'énormes bénédictions sur plusieurs d'entre vous, même avant de venir à la fête, même pour que vous soyez à la fête. Et il continue à le faire, parce que Dieu veut nous encourager d'avance par rapport à ce qui vient. Approchons-nous de lui durant cette fête-là. Appliquons-nous de tout cœur chaque jour à apprendre ses voies, à sa fête, à le prier. Pas à prier moins, mais à prier plus, si on peut, à sa fête. Pour le remercier puis lui demander son aide, lui demander de nous donner de finir l'œuvre pour que les gens du monde cessent de souffrir, pour que le Christ revienne. Et demander à Dieu de nous aider à refléter de plus en plus son caractère, que les gens voient autour que nous faisons partie d'un autre gouvernement, d'une autre culture. Une fois établie sur la terre, cette culture-là va changer l'univers entier. Et on n'en est qu'au tout début de l'histoire.